Odyssée immigrée par Sophie Aluc.
Bonjour Monsieur Kahali.
Bonjour.
Alors, vous dirigez l'espace culturel Nouveau Cap à Aulnay-sous-Bois.
Oui.
Dites-nous depuis quand vous occupez ces fonctions ?
2017.
D'accord.
Ouais, ça fait 8 ans maintenant.
On est pour le vivre ensemble. On donne surtout de l'importance aux gens. Vous avez, je vais vous parler de quelque chose de très concret. Vous êtes arrivé tout à l'heure dans le hall, c'était un peu l'effervescence, il y avait des gamins partout. Et là, c'est quelque chose qu'il faut... Il faut travailler. La ville fait des choses extraordinaires, et notamment ça. C'est-à-dire qu'on a un service de la ville qui propose des petits chantiers aux gamins en décrochage. C'est de l'assistanat, c'est ce sur quoi je me bats, mais il faut aussi être dans le concret. Et là, on est dans le concret. Donc, on propose à des gamins, l'espace d'une semaine ou deux, de venir travailler dans un chantier de réinsertion. Là, en l'occurrence, voilà, c'est des gamins. Alors, c'est beau, la symbolique est géniale. C'est des gamins d'ici, c'est des gamins que je connais, et qui viennent, l'espace d'une semaine, repeindre nos murs. Alors, ils sont encadrés, bien entendu, par un éducateur. Et pendant une semaine, ils vont travailler. Et quand je vous dis que c'est. On sort un petit peu de l'assistanat quand même, parce qu'ils vont être payés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un qui est... Vous savez, on a un plan de deal juste là, nous, collé. On a un des plus gros points de deal des trois villes qui est là. Et on vit mais là, vraiment, je pourrais vous montrer en partant. En plus, quand vous allez partir, ce sera l'heure d'ouverture. Il est quelle heure ? Je sais pas. Oui, 11h. Voilà, c'est bon. Donc, vous les verrez tout à l'heure. Et donc, on vit en harmonie. Quand je dis en harmonie, c'est-à-dire qu'on est en... c'est la paix des braves. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, vous nous faites pas chier, on vous fait pas chier. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de quoi que ce soit, café, vous êtes chez vous. En contrepartie, les gars, quand il y a des spectacles, venez pas emmerder nos clients. Vous vous poussez, vous mettez sur le côté. Et ça marche. Et ça marche, et même je vais plus loin encore, ils nous sécurisent les parkings, les jours de spectacle. Enfin, vous voyez, c'est bon. Bon, il y a plein d'histoires comme ça, hein, de toute façon, qui sont répandues dans les quartiers, ou quand vous allez dans un quartier, vous dites aux gens ouais, « le deal, c'est galère ». Oui, ils sont galères, mais quand même, ils montent nos courses. Ils sont galères, mais la petite mamie qui est en galère, eh ben, c'est lui qui va lui faire ses courses. Vous voyez, il y a toujours de l'humain. C'est pas que des monstres. Donc voilà, pour vous raconter l'histoire, là, il y a un des gamins qui va repeindre des murs qui, d'habitude, est de l'autre côté des murs. Mais c'est un super signe, c'est-à-dire qu'il va... je suis super content, il va peut-être se sortir de ce guépier grâce à ça.
Et ces gens ces jeunes qui sont de l'autre côté du mur, ils sont en décrochage scolaire, la plupart du temps.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est
ils ont arrêté l'école.
Ouais, ils arrêtent l'école.
Et de plus en plus tôt ou...
Moi,
c'est
quoi
pas...
Non, je
rentre lycée,
pas.
Lycée, c'est quoi
ça? Ouais, c'est collège-lycée. Enfin, à partir de la quatrième. Troisième, ça décroche. Là, pour le coup, c'est pas pire qu'avant. On n'est pas dans un truc qui se dégrade.
D'accord.
Très loin de là. Il faut leur rendre hommage. On a des parents qui se battent. On a des parents qui essayent. Moi, je suis toujours outré quand j'entends... nos chers politiques taper sur les parents, on parle de couper les allocs, on parle. Mais vous savez pas de quoi vous parlez en fait.
Bien sûr.
Est-ce que vous imaginez une maman subir ce que leurs enfants leur font subir avec plaisir? Mais non. On veut tous le meilleur pour nos enfants. C'est juste que des fois il y a pas les armes pour se battre face à ce que représente ce fléau qui est le trafic de drogue. Un gamin de 14 ans je vais pas vous refaire le truc, vous le connaissez, mais bon, à qui on propose de gagner presque 800 balles par jour, c'est difficile. Une maman seule, parce que c'est ça la difficulté, on est dans beaucoup de cas de monoparentalité, une maman qui est pas super bien dans sa vie, dans sa tête, qui a pas forcément d'argent, et qui a un gamin qui réussit à amener un peu plus d'argent, au bout d'un moment, Ouais, on va crier une fois, deux fois, trois fois, je veux pas de ton argent, je veux pas de ton argent, mais ouais, il faut bien payer le loyer, il faut bien que le petit frère parte en vacances, voilà. C'est, je fais pas la je défends surtout pas ça, bien au contraire, je l'explique. Et je supporte pas ce discours qui est de dire, voilà, culpabiliser
les parents. C'est la faute aux parents.
Ouais, non, c'est pas la faute aux parents, c'est la faute au système, c'est la faute à nos politiques, et c'est la faute surtout, évidemment, à la misère sociale, qui, et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, la pauvreté. Voilà, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Je ne suis pas fataliste, hein, mais c'est la réalité. Donc à nous, de, effectivement, comme vous le dites, de, à notre petite échelle, d'apporter un petit peu de bonheur, de plaisir et surtout de respect. Il faut respecter les gens. Moi, je pense que c'est ça le principal.
Quel retour vous avez eu le plus émouvant, quelque chose qui s'est passé et qui vous a marqué?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, vraiment.
Il n'y a pas un événement particulier qui...
Celui qui me parle, il y en a eu beaucoup, l'affaire Théo. Théo, c'est notre...
Bien sûr, grand frère.
Il sortait du petit frère pour moi, mais... Oui, bien sûr. Il sortait du cap, ça lui est arrivé. Il venait d'enregistrer, enfin bref...
Donnez-nous le contexte, on ne le connaît pas. Il venait d'enregistrer ?
Alors, il chantait ? Il est en train d'enregistrer, c'est un rappeur, il était rappeur à l'époque. D'accord. Et c'est surtout qu'il venait, alors là, pour le coup, le jour où ça lui est arrivé, il venait de venir donner des affaires à une collègue qui travaillait avec, ici et qui était proche. Donc, sa sœur l'avait envoyé. Et donc, il s'est retrouvé là, il n'était pas du tout dans ce truc-là, lui. Alors, il connaissait ses gamins, bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, le point de deal est juste à côté. Donc, lui, il sort d'ici, il va serrer la main au gars et il se retrouve là au moment où il y a une descente. Je ne suis pas en train de romancer, c'est une vraie histoire. Il se rebelle, il ne se laisse pas faire, il n'a pas envie de se faire fouiller pour la 50e fois.
J'ai vu la vidéo, bien sûr.
Voilà, et bon, après, est arrivé ce qui est arrivé.
Comment vous avez vécu tout ça, en fait? Vous ne m'avez pas dit.
Comme un drame.
Bien sûr.
Comme un drame, mais c'est fou de vous dire ça, mais comme un drame redondant. Ouais, comme un drame redondant, c'est encore une fois, voilà, ouais, c'est arrivé encore une fois, mais c'était pas la première.
Et depuis que ça s'est passé, vous l'avez revu, vous...
Oui, on le côtoie de temps en temps, bien sûr, il est toujours là. Bah, il fait partie, c'est un petit du quartier, comme on dit. Hein. Ouais. Donc, ici, le regard n'a pas changé, c'est Théo, voilà, c'est Théo.
Est-ce que ce qui lui est arrivé n'a pas été un problème après pour justement ses relations sociales?
Non, ça n'a pas été un problème parce qu'on n'en parle pas, on ne parle pas du fait,
parce que le fait est terrible. Ouais. Donc non, il est plutôt même, en tout cas, on est dans l'empathie et dans l'amour total envers ce qui lui est arrivé, et on parle pas de ça. On parle pas de ce côté hyper, hyper négatif. Et d'ailleurs, je sais plus qui a dit ça, mais c'était très juste. Comment, dans un quartier hyper compliqué comme le nôtre, où effectivement, on va pas parler de ça, mais l'homophobie, enfin bref, c'est très, très, très prégnant et très présent, comment est-ce qu'un gamin aurait pu lever le bras en disant « voilà ce qui m'est arrivé !» Non, mais là, c'est de ne pas connaître du tout la sociologie des quartiers. Ouais. Si ça a été révélé, s'il a assumé ce qui lui est arrivé, c'est que ça lui est arrivé. C'est rien qu'en soi, qu'un gamin dit ça, moi qui suis... je fais même pas d'enquête. Je sais très bien que c'est réel. Il n'a pas inventé ça. Il l'a pas inventé. Parce que, voilà...
De toute façon, les images le prouvent. Hein.
Bon, alors après, pour le coup, les images le prouvent.
Ouais. Mais heureusement qu'elles existent.
Ah bah s'il n'y avait pas eu les images, ça serait passé à l'as. Hein.
Et combien de cas...
C'est ce que j'allais vous dire, on est à des centaines de cas. Et après, je vous dis toujours pour relativiser, c'est pas pire qu'avant. C'est pas pire qu'avant. Aujourd'hui,
là, c'est médiatique. C'est très grave.
Oui, c'est très grave, mais pardonnez-moi. D'accord. Et c'est très grave. Et à quel point, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc oui, c'est.
Sa vie est brisée quand même.
Oui, sa vie est brisée, sauf que si je peux me permettre, il y en a dont la vie n'est plus là. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts et dont on n'a jamais parlé. Voilà. Et moi, je fais partie d'une génération où les ratonnades. C'était un fait normal. Je vous raconte une petite anecdote. Hein. J'ai 14 ans, je me fais contrôler. Pour la 5e fois ou pour la 10e fois de la journée, où le flic te dit « Youssef, monte dans la voiture ». Donc le gars connaît ton nom, hein, mais voilà. Et on t'emmène dans un endroit un peu plus éloigné de la cité, on te tabasse bien dans le fourgon, on te laisse sortir du bois de la poudrerie, de la Sevran, et on te dit « Vas-y, démerde-toi, maintenant tu rentres chez toi ». Et toi, t'es en sang et tu rentres chez toi. Ça, c'est les années 80. Voilà, ça, c'est les années 80. Et c'est un fait complètement banal. À l'époque. Parce que
le fourgon, donc personne ne le voit.
Et personne ne le voit. Et puis de toute façon, à l'époque, personne ne voyait rien, parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est pas pour relativiser. Mais c'est important de connaître le passé. Le passé, c'est que c'était ouf. On part d'un système où on a... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça y est, on est reparti pour une heure. On a continué la guerre d'Algérie. Moi, je vais vous dire des choses très concrètes. C'est-à-dire que les flics qui m'arrêtaient, c'est des gars qui, pour certains, avaient fait la guerre d'Algérie. Ou étaient fils de gens qui avaient fait la guerre d'Algérie.
Comment donc, vous le savez, ça?
Parce qu'ils te le disent à la gueule. C'était clair. Pourquoi t'es pas resté dans ton pays? Mon père, il aurait dû te finir. Ou j'aurais dû te finir quand j'y étais. J'aurais dû tuer tes parents. Ça, c'est des trucs, je vous dis, c'est des choses de tous les jours dont il faut parler, qu'on a du mal à évacuer. Parce que nous, on a eu du mal aussi. Moi, j'ai du mal à raconter ça. Parce que c'est des moments compliqués de ma vie. Mais on a tous vécu ça dans les banlieues. En tout cas, ici, dans le 93, Sevran, Aulnay, Villepinte, on fait partie de... Nous, on a pris cher. On a pris très cher. Alors, c'est pas pour relativiser ce qui est arrivé à Théo, bien au contraire. Mais
C'est une réalité.
Et aujourd'hui, on peut plus faire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a les caméras. Et c'est pour ça que c'est génial ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que ça a été filmé. Ouais. Et on ne peut plus aujourd'hui tricher comme on le faisait avant.
Et tous les jeunes ont des téléphones, ils peuvent filmer n'importe quoi.
Oui, c'est fini maintenant.
Ah, c'est fini. Ça existe encore.
Ça existe encore.
Il est mort il n'y a pas si longtemps. Donc
Oui, mais quand je dis c'est fini, c'est-à-dire que plus rien, l'injustice est toujours là. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on la voit. Elle est montrée. C'est-à-dire qu'on a un vecteur de communication autonome et on peut, entre nous, alors ça c'est pervers de temps en temps, mais en tout cas, voilà, dès qu'il se passe quelque chose ici dans un quartier, on est au courant. Mmh. On est au courant. Ça ne veut pas dire que vous, journaliste, l'êtes, et surtout que vous, journaliste, vous en parlez. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que nous, entre nous, déjà, on le sait. Aujourd'hui, 30 secondes, je suis informé. Il se passe quelque chose dans mon quartier d'origine à Sevran, je le sais en 30 secondes. Parce qu'il y a Snap, parce qu'il y a tout ça. Donc quand il y a une descente, on le sait. Quand il y a une bavure, on le sait. Quand il y a une... Bon, ça, c'est plus triste, mais c'est ça aussi la réalité. Quand il y a un règlement de compte ou une bagarre entre cités ou des meurtres, on est au courant tout de suite. Ça va très, très vite aujourd'hui. À l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas et certains en jouaient.
Ouais. Alors après, il y a le volet justice.
Oui.
Mais les images aident à ce que justice soit faite.
Oui, alors après, c'est un nouveau débat. Il faudra que vous reveniez. Parce que la justice...
Ouais. On est encore loin du compte.
Oui, déjà, la justice, elle est faussée dans un premier temps parce que... Voilà, vous attaquez à l'État quand vous êtes en conflit avec les forces de l'ordre ou avec... vous attaquez l'État. concrètement. Donc vous remettez en cause la parole de l'État. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais vous pouvez faire cette tête, hein. Donnez-moi.
Le policier.
Donnez-moi le nom d'un policier qui a fait plus de 3 ans de prison après avoir assassiné quelqu'un. Il n'y en a pas.
C'est pour ça qu'il y a un problème en France avec la police, et qu'il faudrait qu'il y ait une vraie réflexion de fond. Parce que l'affaire Théo, il y a ce qui s'est passé, mais il y a aussi ce qui s'est passé comme insulte dans la voiture. Les insultes racistes.
Mais je vous dis, ça a été
niées au procès, je crois.
Oui, ça a été nié au procès. Mais les insultes racistes, elles sont courantes.
C'est ce que vous voulez dire.
Courantes, mais courantes. C'est normal.
Mais c'est pas normal. Il faut que ça soit.
C'est pour ça que j'accepte ce genre d'interview. Il faut que ce soit déjà su. Il faut que les gens sachent que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Voilà, dernière anecdote. Après, je vous embête pas. Il y a un an, je crois, je suis dans mon quartier d'origine, à la fenêtre. Il y a, il y a un point de deal pas très loin. Il y a les flics qui font une descente, qui sont en train de fouiller dans les buissons autour de chez ma mère. La voisine du dessus leur dit gentiment « Messieurs, c'est pas ici, il n'y a rien ici, restez pas là. » Le mec, c'est une maman. Le mec qui a la trentaine, hein, lève la tête et lui dit « Espèce de sale bougnoule, ferme ta fenêtre. » Pourquoi ? C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est complètement frontal. Donc là, c'est fou. Mais ce qui est beaucoup plus pernicieux, c'est tous les jours. Le « avec vous, on sait ». Oui, non, mais je sais avec vous comment ça se passe. Voilà, la stigmatisation pernicieuse et insidieuse, vous voyez, qui est en dessous comme ça, où on le sait. Et qui est, de toute façon, il est là le mal de notre société. Ça, c'est à toutes les strates de la société, où c'est, oui, toi, mais tu sais, chez toi, mais du coup, chez moi, c'est chez toi. Pourquoi tu parles comme ça, en fait? Et ça, on le vit tous les jours. Je le vis tous les jours, et je le vis même, ici, au sein de la hiérarchie, on le vit tous les jours. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est à nous d'être pas dans le renoncement et pas dans le combat, mais plutôt dans la pédagogie et puis dans l'intelligence et montrer à ces gens-là, par l'éducation, par l'école, par les postes qu'on va occuper, que non, on est au moins aussi bien que vous. En termes d'éducation, on est bien élevé. Après, voilà, il y en a certains qui sont difficiles, mais quand il y a des difficultés, elles sont sociales, elles sont pas raciales. Bon.
Et il faudrait quand même qu'il y ait un travail qui soit fait et reconnu par l'État du problème du racisme dans la police, quand même.
Oui, alors.
Vous ne pensez pas qu'il y a une action, quand même.
Il y a eu des états généraux.
Parce que souvent, l'État défend la police.
Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est difficile. C'est difficile de lâcher sa police. C'est pour un gouvernement, c'est difficile de dire on a une police raciste, on a une police de merde. Les Américains ont mis du temps à le reconnaître.
Il ne faut pas dire que tous les policiers sont racistes.
C'est loin d'être le cas d'ailleurs. C'est très très loin d'être le cas.
Donc il faut qu'il y ait quand même un travail d'éducation au sein de la police.
Enfin, oui, il faut qu'il y ait un travail d'éducation au sein de la police. Sauf que pour qu'il y ait un travail d'éducation au sein de la police, il faudrait qu'on arrive à un système où les entre guillemets, les dirigeants ne pensent pas à ces choses-là. Si elles le pensent, et je pense évidemment au Front National, et alors j'ai du mal avec le changement pour moi, et c'est symptomatique, c'est le Front National. Quand c'est ces gens-là qui sont au pouvoir, mais c'est ouvertement ce qu'ils pensent. Donc, et quand je dis qu'ils sont au pouvoir, je n'exagère pas. Hein. Aujourd'hui, ils ne sont pas, mais ils le sont. C'est-à-dire que la politique qui va être mise en place, c'est pour ne pas subir le entre guillemets le veto du RN. Donc voilà, c'est une politique sécuritaire. Ça, je suis pas contre, mais où on stigmatise. Voilà, Retailleau. Voilà, j'ai rien contre ce monsieur, mais j'espère ne jamais le rencontrer. Voilà, on peut pas discuter avec des gens comme ça. Je m'intéresse beaucoup aux faits politiques, donc je sais très bien d'où il vient. Je sais ce qu'il a dit en 2006-2007. Je sais qui il est. Donc avec un mec comme ça à l'intérieur, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire les états généraux de la police qui va commencer à se remettre en cause. Jamais de la vie.
On en est loin, ouais.
Voilà. Donc voilà, nous on continue le combat. Moi je suis dans le respect des institutions, dans l'amour même des institutions, pour vous dire la réalité, même si je sais que c'est biaisé, que c'est pas fou, mais les choses vont changer. Et elles changeront comment? Toujours par l'élévation. Par l'élévation, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut être meilleur qu'eux.
Le ciel est bas, le plafond tombe sur la tête. Pas vraiment le cœur à faire la fête. Pas de raison, à quoi bon,
à quoi bon.
Mes amis sont trop bêtes. J'aime pas la vie que je mène dehors. J'aime pas la nuit même quand je dors. Y'a ces fous qui m'embêtent. Trop de gens dans ma tête. Et tic-tac, fais le vieux réveil. Souvenir de ma vieille. Non, je l'aimais pas, je la connaissais pas. Élevé par l'appareil. Vieux clic-clac en guise de lit. Seul son réseau, même pas le wifi. Les ombres sur les murs me rassurent. M'aident à rompre l'ennui. Mes journées à la fenêtre, je crie sur les gamins comme si c'était les miens. Et peut-être j'y crois des fois, mais le bonheur ne m'aime pas. Je dois dire que je lui rends bien. Voir des gens heureux, c'est même pas contagieux. Je sais pas ce que c'est, donc je suis même pas envieux, non. Aussi que mon corps en a trop bu pour me pardonner. Je paye ma santé, m'a abandonné. Dialyse, analyse mon lot quotidien. Je m'enlise, j'ai perdu la main. Trop de ratures dans ma vie et même pas de Tipex. Pour commencer, retrouver mon ex. Je suis seul dans la ville, qu'on dirait l'Indien. Seul dans ma vie, mais ça ira bien.
Bon, moi, je regrette la police de proximité. Voilà, je vais pas.
Bah oui.
Ah, moi, je la
non, mais il y a des choses à faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros souci, quoi. Qu'il faudrait, faudrait se remonter les manches et s'attaquer au problème un jour, quand même.
Oui, bien sûr. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je vous dis, le fléau et l'argent amené par la drogue faussent la donne. Faussent la donne et faussent le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a une partie de la population jeune qui. Je ne vais pas dire qu'elle est irrécupérable, hein, très loin de là, ça ne va pas. Mais elle gagne tellement d'argent. Elle gagne tellement d'argent.
Vous les voyez, vous ?
Oui, bah oui, on les voit, oui.
Vous avez vu l'évolution d'un jeune issu d'une famille très pauvre rouler en...
Oui, alors ceux-là, ils sont vite attrapés et ça s'arrête vite. Les plus pernicieux, c'est ceux qu'on ne voit pas.
Ah, oui, oui.
C'est ceux qui savent... rester discret, qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas tout ça, mais voilà, ils ont de l'argent. Après, moi, je ne suis pas contre tout ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est illégal, déjà, d'une, évidemment.
Mais on ne les arrête pas.
C'est difficile.
Parce que vous les connaissez.
C'est difficile de les arrêter.
Non, mais la police, alors, elle fait quoi ?
Eh bien, la police, elle essaye...
Elle tolère ?
Non, elle ne tolère pas, mais je pense que les gens n'ont pas conscience de l'ampleur.
C'est ça.
Du phénomène. Je pense que vous n'avez pas conscience de ce que ça représente. C'est-à-dire que
Et en plus, Aulnay-sous-Bois, dans le 93, c'est quand même une place très importante.
C'est une place très importante. La plaque tournante, c'est Sevran.
Sevran.
Je ne fais pas du patriotisme parce que je suis sevranais, mais c'est la réalité. La plaque tournante, notamment pour le trafic de drogue douce, comme on les appelle, le hashish, c'est Sevran. Et pour penser le 93, de manière générale, de toute façon, c'est un département voilà, qui a été un des précurseurs. Donc évidemment, par définition, ça reste. Mais... Oui, vous n'avez pas idée de ce que ça représente. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une génération où il y avait deux points de deal dans mon quartier. Voilà, cité des Bedottes, il y avait deux points de deal. C'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, on est dans des situations où, dans des quartiers comme celui-ci, il y a quasiment un point de deal par bâtiment. Vous voyez, j'exagère, mais ici, je ne vais pas faire de la délation, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 points de deal reconnus dans un quartier comme celui-ci.
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de consommateurs aussi ? Non.
Oui, bah évidemment. Vous savez, quoi, la France est le premier consommateur de drogue douce. Hein. C'est le premier consommateur.
Je ne savais pas.
Ouais, ouais, on est devant les Espagnols qui sont pourtant culturellement, voilà, qui consomment depuis plus longtemps que nous. Mais on est les premiers consommateurs. On est aussi, petit aparté, les premiers consommateurs d'anxiolytiques.
Oui, ça je savais.
Ça, hein. Ça donne une idée de ce qu'est notre société.
Ouais.
Donc voilà, sur les drogues douces, oui, vous ne pouvez pas imaginer le raz-de-marée. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et notamment sur les villes du 93 qui se situent sur la ligne B du RER, c'est une catastrophe. À Sevran, le plus gros point de deal, il est quasiment à la gare. C'est-à-dire que les gars descendent, vont prendre leur truc, reprennent le train dans l'autre sens et remontent à Paris. Bon, Je vais pas vous raconter tout ça. C'est des choses que les médias connaissent, qu'on a déjà raconté. On a déjà. Faut pas insister sur ce genre de choses.
Non, mais faudrait se poser la question de comment on en sort, en fait.
C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais qu'il y a d'autres pays qui ont essayé de légaliser. Est-ce que c'est bien de légaliser? Si vous légalisez, ces gens qui sont en dehors du système, eh ben, ils vont vendre autre chose et peut-être autre chose de plus nocif. Ils vont se mettre à la coke, ils vont se mettre à l'héroïne. Enfin, c'est déjà le cas. L'héroïne revient. Pour les gens de ma génération, c'est une catastrophe. D'imaginer que l'héroïne revient pour moi.
Moi, parce qu'à votre, ben, non, à votre époque, elle était là.
Elle était là, comme je vous ai expliqué. Ouais. Et nous, on faisait la chasse aux dealers. On les tabassait.
Ouais.
Aujourd'hui, et bah, aujourd'hui, les plans de deal...
Il y a aussi là, de l'héroïne.
Ah, vous avez des menus. Donc, voilà, ah ouais. on vous propose tout ce dont vous avez besoin.
D'accord.
Mais voilà, nous on fait.
Et ces jeunes-là, ils sont pas récupérables parce qu'évidemment.
Si, ils sont récupérables. Ils sont tous récupérables.
Personne. Non, mais je veux dire, l'argent est tellement attractif.
Il arrive un moment où, bah, déjà d'une.
Puis c'est dangereux pour eux quand même.
Voilà, c'est très dangereux.
Il y a la prison, ils ont.
Bah, la prison, c'est pas ça le danger. Le danger principal, c'est la perte de sa vie. C'est qu'il y a.
Il y a des règlements de compte.
C'est pas les bisounours ici, hein. C'est la guerre. Donc oui.
Entre
vendeurs. Alors on rentre pas dans les trucs comme on entend à la télé, entre bandes rivales. Oui. Il n'y a pas de bande, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de bande, mais il y a des
De gangs.
Il n'y a pas de gangs. Il y a des petits gangs, mais c'est pas ça qui fait. Ouais. Non. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc quand il y a de l'argent, bah, oui, évidemment, il y a volonté des uns de mm-hmm. prendre le terrain de l'autre.
Ah, oui,
voilà. Quand il y en a un qui tombe en prison, eh ben, il faut vite reprendre le terrain, et donc ça se bagarre.
Et la présence des armes, elle est là aussi.
Elle est très très présente.
Ouais.
Très très présente.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a des armes partout, dans les banlieues, hein, dans nos quartiers. Voilà, ils sont tous armés. Mm-hmm. Ils sont tous armés, alors ça se balade pas avec ces armes, hein, c'est pareil. On n'a pas le port d'armes ici, donc il n'y a pas d'armes visibles. Mais vous savez qu'à la moindre embrouille, ça finit comme ça. Et ça a changé d'ailleurs beaucoup les rapports entre les gens dans les quartiers. C'est-à-dire que vous pouvez demander, dans les quartiers, on s'embrouille plus comme avant. C'est-à-dire qu'une petite querelle d'automobile, ça peut aller tellement loin que, voilà, aujourd'hui, il vaut mieux... Cool, vas-y, passe ton chemin, c'est pas grave, désolé, t'as raison, j'ai grillé le feu, oui, désolé. Faut pas... Voilà, ça peut aller loin.
Et les gens sont de plus en plus sur les nerfs aussi. Donc du coup,
voilà,
c'est ça.
C'est compliqué.
Ouais,
c'est compliqué.
Ouais.
Mais je veux pas faire cette interview pour vous dépeindre un quartier.
Non, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est une réalité quand même.
Ça c'est la réalité, mais à côté de cette réalité, et ça c'est une constante dans la vie des quartiers un petit peu difficiles. Et je sais que même avant ma génération, ça a toujours été comme ça. Vous êtes ici chez le vrai peuple. Le peuple français, il est là. Alors, il n'y a peut-être pas la couleur que vous voulez, enfin, je ne parle pas à vous, hein, bien entendu, mais on est français. On est des vrais français, la preuve, on râle tout le temps. On est vraiment français, on est... Alors, avec des différences physiques, voilà, des différences religieuses, tout ça. Le fait religieux, pour en parler, parce que je pense que vous allez m'en parler, le fait religieux, ça dénote aussi de la même envie, entre guillemets, paradoxalement, d'être reconnu. Et quand on n'est pas reconnu, on va se réfugier vers les seuls, entre guillemets, courants de pensée qui nous donnent de la valeur. La valeur religieuse, bien entendu. Mm-hmm. Et donc on se réfugie dans la religion parce que là, on est tous égaux. Parce que là, il n'y a plus de différence. Parce que là, on nous promet, en tout cas, si on est pieux, d'atteindre... la sagesse et le paradis d'ailleurs. mais le fait religieux, il naît de ça.
Alors il y a une chose qui est bien à Aulnay, c'est qu'il y a une grande mosquée.
Oui, bon, alors c'est
pas... Je veux dire, c'est pas le cas de toutes les villes.
Ça commence en tout cas.
Enfin, ça a été, c'est ancien, la présence de la mosquée.
Non, mais
c'est une reconnaissance quand même d'une religion qu'il n'y a pas partout, je veux dire, à Paris.
Oui,
à part la mosquée de Paris, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire.
Mais
c'est important.
Ce phénomène, qu'il y ait un lieu. Dans le 93, il est. Alors, Aulnay était une des premières villes, et la mosquée d'Aulnay est très jolie, pour le coup, esthétiquement. Mm-hmm. Mais c'est un phénomène qu'on rencontre partout, hein. Tout simplement parce que pour la grande majorité dans la grande majorité des cas, les communautés se sont prises en main elles-mêmes, et c'est eux qui ont financé. Donc ça, c'était la première chose. Après,
enfin, pendant longtemps, ça a été dans des caves, dans des dans des lieux, cachés, quoi.
Ouais. Donc là, les mairies, dans un esprit d'ouverture qui était nécessaire et qui était de toute façon, c'était le fil de la vie, c'était obligatoire. Hein. On allait y venir quoi qu'il arrive. Donc effectivement, les villes ont donné des terrains, proposé entre guillemets des terrains aux associations culturelles et leur ont permis évidemment de construire des lieux décents. Et ça aussi, ça participe au respect et à l'acceptation. Être musulman, c'est pas contradictoire avec
être français.
Être français et aimer son pays, pas du tout, pas du tout. C'est juste, il faut pas inverser les choses. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. C'est la France qui a du mal à accepter ce changement. C'est normal, c'est dur.
Et pourtant, la présence des musulmans en France, elle date.
Elle date. Elle est historiquement
très ancienne.
Très très ancienne. Et puis voilà, il faut, faut parler des choses. C'est la résultante d'une politique coloniale, qui a été en vigueur plus d'un siècle. Donc c'est trop facile. C'est trop facile aujourd'hui de dire ouais non mais voilà ils sont pas à leur place ici. Mais c'est vous qui êtes venu nous chercher. C'est vous qui êtes venu nous chercher, c'est vous qui êtes venu nous embêter, nous, pauvres petits tribuns, parce que c'est comme ça que vous nous décrivez. Hein, on savait pas écrire, on savait, fallait pas venir nous emmerder, laissez-nous tranquilles, avec nos chameaux. Et on serait pas venu vous embêter aujourd'hui. Voilà, donc voilà, vous êtes venus, vous avez vu, on a réussi à s'émanciper, à obtenir, soit par la guerre ou soit par négociation notre indépendance. Il se trouve que c'est le paradoxe, mais c'est comme ça, une grande partie de ces populations libérées sont venues en France pour travailler, mais faut pas oublier que c'est parce que vous aviez besoin de nous. Et puis nos parents pensaient que moi je fais partie de la génération où les parents disaient on va rentrer, donc on fait pas de bruit, on n'achète pas de maison, ça sert à rien, on va rentrer. Ça c'est la première génération. Donc ça, il faut que les fachos le sachent. À la base, on n'était pas venu manger votre pain. Hein. Non, on était venu fabriquer votre pain, en fait, et vos immeubles. Et on devait rentrer. Sauf que nos parents n'avaient pas prévu une chose, c'est que ben, nous, on allait naître ici, se marier ici, avoir des enfants ici, et se sentir français. Et nos parents se sentent français aussi, ils ne le disent pas, mais ils sont français. Moi, ma mère, quand elle va en Algérie, au bout de 3 mois, il faut qu'elle rentre.
Ah, oui.
Et elle dit bien, et c'est important ce que je vous dis, elle rentre.
J'ai fait il y a quelques années un travail dans un foyer à Gonesse, un foyer intéressant parce qu'il y avait justement plein de gens de plein de pays différents et j'ai recueilli des témoignages et ce qui m'a vraiment vraiment frappé c'est que chaque personne connaissait la France, aimait la France, mais comme pas un Français n'aime la France. Parce qu'en plus, ils l'ont sillonné, souvent ils font des chantiers, donc ils la connaissent mieux que personne, quoi. Et cet amour-là, alors que ces gens-là vivaient isolés, vous voyez, au banc du centre-ville de Gonesse, voilà, dans une zone industrielle, comme vous pouvez imaginer les foyers qu'on a là, c'est déchirant, quoi, je veux dire.
Mais c'est important. Et, c'est pour ça
et en même temps, c'est super émouvant.
De vous répondre, c'est parce que je veux que ça se sache. Il faut que les gens sachent que. C'est pas un désamour, c'est pas vrai. Alors non. par provocation, excusez-moi le terme, nique la France, tout ça. Mais c'est de la provoque, c'est comme un appel au suicide. C'est comme le gars qui prend des cachets pour se suicider. On sait très bien qu'il va pas mourir. C'est juste un appel au secours. C'est ça. C'est un manque de reconnaissance, un manque de confiance et de considération d'une partie de cette population. Alors en plus là, ça tombe très mal, ça se marie avec un manque de confiance de toute façon de toute la France. Les Français n'ont plus confiance en leur politique. Et à juste titre, si je peux me permettre, parce que voilà, le carnaval, là, ça continue, c'est hallucinant ce qui se passe. Je vais pas faire de politique là, surtout ma position, j'ai pas le droit, mais... C'est hallucinant ce qui se passe, c'est hallucinant. Donc évidemment, là, aujourd'hui, la France va mal. Et quand on va mal, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tous le rhum de quelqu'un. Bah, quand on va mal, on tape en dessous. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? C'est les sans-dents, hein, voilà. C'est les gens qui ont un peu moins de pouvoir.
Sans-dents ou sans voix.
Et sans voix surtout. Et sans voix surtout. C'est compliqué, mais... c'est paradoxal, encore une fois, ce que je vous dis, mais moi, plus c'est compliqué, plus mon rôle est important. Et donc, plus j'ai envie et besoin et surtout intérêt à faire avancer les choses. Donc, voilà, je le combat n'est pas terminé. J'aime pas le mot combat, de toute façon, mais le chemin est encore long. Mais je pense d'ailleurs qu'il est infini, on n'y arrivera véritablement jamais. Mais en tout cas, on peut mieux vivre ensemble. Ça, je sais qu'on le peut. On le fait ici. On le fait ici tous les jours.
Dans un club de divertissement pour adultes. Dernier avertissement avant ton ensevelissement sous la brume. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Je barreau dans l'agglomération et je te livre ce qu'il y a sous ma carapace. Je me dévoile à chaque paragraphe. Dire que j'ai commencé par hasard. Les années passent comme des heures. J'ai commencé, j'étais si jeune. On voulait copier nos idoles, je parle des grands juste au pied de l'immeuble. Le peur m'a révélé, mais qui aurait pu parier ça? J'ai dû gravir les échelons un à un pour en arriver là. On doit passer à une nouvelle étape selon moi. Si on ne croit que ce que l'on voit, les yeux fermés. Je ne renonce pas, inutile d'être riche et mes gars le sont pas. Je donne pas de leçons mais retenons ça. Les neiges sont là dans ma fosse. Les anciens sont au balcon, je m'adresse à tout le monde d'égal à égal. Et pourtant je suis bien, ne trompe pas. J'enchaîne les sessions de nuit, entraîne. Sans flemme normale, c'est ma raison de vivre. C'est pas qu'une question de bif. Et pourtant c'est l'un de mes nombreux vices. On est tous perfectibles, bizarrement le temps nous pervertit. Tu voudrais ternir mon image, on a nos torts respectifs. Beaucoup me trouvent excessif, pour qu'ils soient ouverts d'esprit. Je vais leur fendre le crâne à la perceuse comme certeux. J'ai besoin de ciel bleu, je vais faire feu, je deviens nerveux. Je reste sérieux pour connaître le cercle vertueux. T'aurais pu faire mieux, on a tiré sur la même bœuf. Plus tard peut-être que je me tournerai vers Dieu. Je suis venu vider mon chargeur face à des milliers de spectateurs. Je prends la parole comme un pasteur qui reçoit des news tous les quarts d'heure. Je pense à mes investissements dans un club de divertissement pour adultes. Dernier avertissement avant ton ensevelissement sous la brume. Je ride lentement dans la nuit. Et dans mes souvenirs enfouis, me dis que j'ai vite grandi. Et que cette vie brise tant de gens, je me sens libre dans la ville sans bruit. Dans les pires temps de crise, on se divise en rangs. Et on fuit le changement, on reproduit nos délires à l'identique. Donc ça va finir dans le sang. Je suis à deux doigts de la rupture. Je crois que j'arrive pile à la jonction. Entre le passé, le présent, le futur, tout se mélange et se confond. Je tombe dans les failles qui me structurent. Je peux résister à la fracture. J'espère que le vide est profond. J'ai choisi le saut de l'ange pour le plongeon.
Je vais leur fendre le crâne à la perceuse comme certes. Je reste sérieux pour connaître le cercle vertueux. Plus tard peut-être que je me tournerai vers Dieu. Dire que j'ai commencé par hasard. Dire que j'ai commencé par hasard. Dire que j'ai commencé par hasard. Dire que j'ai commencé par hasard.
Je parle trop, mais vous m'avez demandé tout à l'heure une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est venue. C'est la première qui m'est venue. Voilà, je vous ai parlé de Théo rapidement, mais la vraie anecdote qui m'est arrivée dès que vous m'avez demandé ça. Comme je vous l'ai dit, on avait fait venir Michel Drucker en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus exactement, 2018. Et pour la première fois, on demande à... Enfin, on propose un foyer de personnes âgées de venir, des gens du Sud, on leur propose de venir voir le spectacle. Et grosse réticence des éducateurs qui nous disent « Écoutez, désolé, les gens veulent pas venir, ça les, voilà, ils ont peur, ils se sentent pas bien. » Donc on met tout en place pour que ça se passe, on leur met en place une navette, on va les chercher, on leur dit « C'est sécurisé, vous inquiétez pas. » Bref, donc les gens viennent, on sent la curiosité, ils sont un petit peu, au départ, un petit peu, comment dire... ouais, impressionné, puis en fin de compte ils s'aperçoivent très vite, nous on détend l'atmosphère et on les accueille comme on sait le faire, et ils s'aperçoivent très vite qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont chez eux, évidemment. Et en sortant du spectacle, le temps qu'on a cherché la navette, il y a un couple de papy mamie qui d'ailleurs maintenant sont abonnés et viennent tout le temps, et la maman, la dame pardon, me dit, ben, la maman parce que dans mon esprit
oui, c'est ma bien maman. Sûr.
La dame, monsieur, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je lui dis, mais oui, bien sûr. Elle me dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'emmener sur l'esplanade, donc qui se trouve en face, où il y a les dealers, où il y a tout ça, parce qu'en fait, on connaît pas, et alors moi, évidemment, je prends toujours la parole avant les spectacles, et j'avais fait un laïus, comme je le fais tout le temps, vous êtes chez vous, c'est un quartier aulnaisien, comme les autres, enfin bref. Et donc je sors, je dis mais bien sûr madame venez, et j'emmène ce couple donc sur l'esplanade, ils sont hyper émus, et là il y a un gamin qui passe, du voilà, des dealers, et qui a entendu un petit peu la conversation, et qui dit aux gens, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, madame, bienvenue. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Vous n'arrivera jamais rien ici. Au contraire, on va vous protéger. Et c'est... Voilà, bon, je vais encore pleurer. C'est quelque chose qui m'a ému. Et je vous dis, ce couple vient souvent maintenant participer à d'autres activités. Et voilà, si je devais donner un exemple de vivre ensemble et justement de la problématique du fait qu'on ne se côtoie pas, et ben c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, on a créé du lien. C'est anecdotique, hein, c'est un petit point. Mais si dans toutes les structures comme les nôtres et dans tous les quartiers comme les nôtres, on réussit à créer ces petits points de lien, on arrivera certainement à recréer ce dont la France a le plus besoin, c'est du lien et du respect les uns pour les autres. Voilà, là on est dans une phase trumpienne où on est en train de tous s'isoler les uns des autres et à se taper sur la tête, c'est toi, non c'est toi, non c'est pas moi. Mais c'est nous en fait, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous dans la même merde. Et plutôt que d'être horizontal dans notre façon de se détester, là c'est la lutte des classes qui revient, voilà, la vraie lutte, elle est là, c'est une lutte sociale, c'est pas une lutte raciale. Luttons pour l'égalité des ou en tout cas pour le rapprochement des gens, et puis pour que les entre guillemets les couches sociales puissent apporter un petit peu de réconfort à ceux qui sont en bas, et revenir à ce qui fait la force et la fierté de la France, c'est l'égalité. Où est-ce que vous voyez de l'égalité ici?
Il n'y en a pas.
Moi, l'égalité, je peux pas la fournir ici, mais la fraternité, je peux. Donc nous, la fraternité, on est là pour la diffuser à tout va. Et on le fait. Et on le fait avec amour et on le fait avec plaisir. Et c'est bien réceptionné. Après, l'égalité, non, je ne peux pas. Ça, j'ai pas les moyens de... Et c'est pas à nous de le faire. Nous, on peut pas. Et si on est là, d'ailleurs, c'est qu'il y a un problème d'inégalité. Mais déjà, s'aimer, c'est con hein, ce que je vous dis, parce que c'est des phrases toutes faites, mais moi, je suis payé pour ça.
Et lutter contre la peur.
Oui, mais ça va avec. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. Je vais pas vous refaire encore un couplet de mes chansons, mais c'est ce que je dis dans une de mes chansons. Je dis voilà, la méconnaissance de l'autre crée la peur, et c'est la différence en fait qui fait qu'on a peur. Sauf que
et ça vient des deux sens, si j'ai bien compris.
Ah, mais bien sûr. Hein? Ah oui, c'est super important. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. Ouais. C'est super important. Il faut pas taper que sur le français de souche avec l'image qu'on a de lui.
Non, mais je veux dire, le fait qu'il n'y ait plus de français de souche, comme vous disiez, les jeunes ici, on ne se connaît pas. Enfin,
on
ne
se connaît pas.
Vous voyez ce que je veux dire, ça marche dans les deux sens. Quoi.
Et du coup, on véhicule des...
Et la peur marche aussi presque dans les deux sens.
Évidemment. Alors, je dirais que la peur des gamins de cité, elle est plus liée à... C'est fou ce que je vais dire, mais à un petit complexe. C'est-à-dire qu'on...
Gros complexe.
Gros complexe. D'infériorité, où on a été de toute façon bien bien matrixé comme ça, on a grandi là-dedans, et du coup, oui, on se sent...
Excusez-moi, mais là, ça vient aussi du racisme, ce complexe d'infériorité.
Ça vient du racisme.
Faut pas minimiser cette question-là.
Non, vous avez tout à fait raison, mais il y a un autre point qui est important, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un système qui est devenu inégalitaire. L'école...
Très important.
L'école en banlieue, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je le dis avec d'autant plus d'assurance que j'en suis fier. Mais maintenant, j'ai des enfants qui sont dans l'éducation nationale. Donc, je sais de quoi je parle. C'est catastrophique. C'est catastrophique. La différence qui est faite entre les collèges de banlieue et les collèges parisiens. On est à Paris, donc je parle de ça parce que c'est vraiment visible. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La première chose, je vous parlais tout à l'heure du fait que les gens n'ont qu'un rêve, c'est de partir de leur quartier dès qu'ils le peuvent. Mais c'est la même chose à l'école. Dès qu'on le peut, il faut que nos enfants se barrent de ces collèges et de ces lycées, parce que malheureusement, c'est pas les mêmes traitements. C'est pas les mêmes traitements, on n'a pas les mêmes profs, on a surtout un taux d'absentéisme des profs qui est hallucinant. On n'a pas les mêmes moyens, c'est catastrophique. Et vient et arrive aujourd'hui un phénomène qui est pas forcément hyper positif, c'est que les enseignants dans ces collèges sont maintenant issus de ces banlieues. C'est-à-dire que voilà, on reste encore dans l'entre-soi. Eh oui. Et ça, c'est terrible. Et malgré les incitations, je sais que l'État fait ce qu'il faut et donne des primes aux profs qui viennent travailler dans les collèges difficiles, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que, voilà, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas...
Ah oui, donc on est vraiment dans un...
C'est pernicieux.
Non, mais je veux dire, c'est presque ça empire, quoi. Parce que ça se...
Oui.
Ça se ghettoise, quelque part. Ouais. Même l'éducation se ghettoise.
Mais complètement. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que... j'aime pas ce mot, mais c'est pour aller très vite, et pardonnez-moi par avance, les auditeurs, mais il y a moins en moins de blancs. Et à l'école aussi. Mm. Et alors, c'est une fierté pour nous de se dire que, ben voilà...
On est devenu prof.
Nos enfants sont à l'école et sont profs aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas envoyés à Paris? Voilà, mélangeons les choses. Voilà. Envoyez les gamins issus des banlieues enseignés dans Paris intramuros et puis faites venir d'autres.
Ouais, ouais. Mais c'est important. Cette mixité, elle est hyper importante.
Ouais, c'est important que la mixité revienne, et c'est important que la France, comme elle est aujourd'hui, représentée, et elle est comme ça. N'en déplaise à certains et à beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas revenir.
Aller contre ça, ouais.
On ne peut pas aller contre ça. Je suis là, moi, je suis né ici. Mmh. Je suis né ici, je ne vais pas changer ma couleur de peau, je ne vais pas changer ma religion. J'ai des enfants aujourd'hui qui sont là. Alors, mes enfants ont un rapport avec mon pays d'origine, mais il y a plein d'enfants ici, issus de l'immigration, qui n'ont plus du tout de rapport avec leur pays d'origine. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, par provocation, je dis oui, ouais, vive l'Algérie, tout ça, mais ils connaissent pas l'Algérie. Et ils ne tiendraient pas un mois là-bas, pour vous dire les choses. Donc la réalité, c'est qu'on est dans un milieu, effectivement, de l'entre-soi, et qu'il faut se battre contre ça. Ouais. Il faut se battre contre ça. Ouais.
Et quand vous parlez de l'Algérie et du rapport à l'origine, il y a aussi en France quelque chose qu'il faudrait retravailler, c'est le rapport à l'origine et à l'acceptation culturelle, la reconnaissance culturelle.
Vous savez,
aux plutôt États-Unis, que de l'effacer, parce que...
La reconnaissance, pour le...
Enfin, reconnaître la richesse de ça.
Oui, mais en ce qui concerne l'Algérie et les quelques pays maghrébins et subsahariens qui ont été colonisés, je ne vais pas taper sur la France, mais il faudra qu'elle fasse un jour son vrai examen de conscience et qu'elle reconnaisse. Aujourd'hui, on reconnaît les bienfaits de la colonisation. Non, mais vous vous rendez compte? On reconnaît que violer ma maman et tout ça... Non, mais pardonnez-moi, j'assume ce que je dis. On peut pas dire que c'est des bienfaits. Non. Alors oui, vous avez construit des routes. Oui, vous avez construit des écoles. Mais elles se seraient construites, ces routes, sans vous. Elles se seraient construites autrement, peut-être. Mais on peut pas résoudre la problématique de la colonisation par ce mot qui est... Voilà, il y a eu des bienfaits à la colonisation. Non, c'est horrible. De soumettre un homme à un état inférieur, c'est le summum de l'horreur. Donc on peut pas donner, il n'y a aucun mot positif qui peut venir après une telle horreur. Donc la colonisation, le jour où les pays... L'Angleterre l'a faite. L'Angleterre le fait. L'Angleterre reconnaît que son passage en Inde n'a pas été forcément hyper positif. Et du coup, les Indiens acceptent mieux ce passage de leur histoire. Mmh. Et l'analyse mieux. Ici, on peut pas. On est dans la négation des deux côtés.
Il y a des historiens qui travaillent la question de la colonisation, etc. Mais ça doit être les politiques qui
doivent. Je ne parle pas des historiens, bien entendu. Je parle des politiques. Ouais. Je parle du politique de base.
Parce que les bienfaits de la colonisation, ça date de Sarkozy, ça date des années 2010. Mmh,
c'est eux qui sont là aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et je vous dis, ça c'est quelque chose d'hyper important et de fondateur. Le jour où on va accepter de poser les choses vraiment et de se parler véritablement, on changera la donne. Mais il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter qu'effectivement, la France... Et je sais qu'à l'époque, il faut tout contextualiser. Hein, c'était pas perçu comme ça l'est aujourd'hui. Mais elle a fait des horreurs, elle a commis des horreurs en Afrique. Mmh. Et c'est pas pour ça que nous, on doit lui en vouloir. Moi, si j'en veux à mon pays, si j'en veux à la France, c'est de ne pas le reconnaître.
Tout à fait. Moi, c'est un gros travail de...
Oui, reconnaître, c'est accepter. Et faut avouer, faut pardonner. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mmh. Et alors, pour le coup, je suis d'origine algérienne, je suis algérien, j'ai la binationalité. Mmh. Les torts sont partagés, de l'autre côté aussi. Hein. De l'autre côté, il y a eu des horreurs aussi pendant cette guerre de libération. Et surtout, il y a eu après, je ne veux pas avoir de problème avec les services secrets algériens, mais voilà, il y a une politique après qui n'est pas forcément une politique d'ouverture de la part de l'Algérie. Après, je, je, Voilà, je ne vis pas là-bas.
Oui, oui, ce qui s'est mis en place après n'est pas forcément...
Ce qui s'est mis en place après, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Ouais. On était sur un modèle qui n'existe plus. Enfin, Poutine est en train de le remettre au bout du jour, mais on est sur un modèle qui était voilà, soviétique. Ce n'était pas forcément le bon modèle. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe en ce moment entre l'Algérie et la France. Si ça, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de couple désabusé qui est en train de se tirer dessus devant les avocats. Mais c'est de l'amour, en fait, en réalité. Mais c'est vrai, je suis sincère, c'est de l'amour. Je vais en Algérie, j'ai encore de la famille. Il ne faut pas mélanger. Le peuple algérien, il aime la France. Et on est bercé de souvenirs de la France. Et même, pour le coup, de la France coloniale.
C'est-à-dire que l'aspect positif de la colonisation, c'est la mise en lien, en fait.
C'est ça.
C'est le partage d'une culture et de références, de choses voilà, qu'on aime.
C'est un des rares points que je vous accorde être positif. Après, le reste, moi, le reste, je vous dis, je suis prêt à discuter, mais... Mais on me la fait pas, quoi. Je suis allé à l'école, et je vois, et je sais.
Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit à l'école aujourd'hui aussi. Il faut que ça avance aussi à ce niveau-là.
C'est pareil, on a mis combien d'années avant de reconnaître que c'était une guerre, la guerre d'Algérie.
Oui.
Voilà, on parlait encore d'événements. Quand j'étais à l'école, on n'a même pas parlé, on m'a jamais rien raconté. Alors comme en plus, il y a un vrai problème d'omerta chez moi et chez les Algériens qui ne racontent pas non plus, parce que c'était tellement horrible, je le sais aujourd'hui, qu'ils ne veulent pas raconter ce qui s'est passé. Donc nous, on ne savait pas. On savait pas. Moi, j'ai grandi sans savoir exactement pourquoi j'étais là, ce qui s'était passé. Et ma mère avait été française. Elle me disait avant, j'étais française, puis maintenant. Mais je comprenais pas tout ça, moi. Bon, voilà. Dieu merci, on a réussi à dépatouiller tout ça. Mais l'histoire, elle est là. L'histoire, c'est que le mal principal de nos banlieues en France, il est lié, je fais du nationalisme, il est lié au conflit algérien. Quand vous aurez réglé la problématique de la... de 1962 et de l'arrivée de l'Algérie à l'indépendance, et que tout le monde aura fait son examen de conscience, on réglera la grande majorité des problèmes, parce qu'il se passe quelque chose de dramatique, d'incroyable en banlieue. C'est que on est tous Algériens, en fait, en banlieue. C'est-à-dire dans le combat, les gamins des banlieues se reconnaissent tous à travers ce petit drapeau vert et blanc et rouge, parce qu'il représente un petit peu le côté rebelle, révolutionnaire. C'est le pays qui a accédé à l'indépendance en se bagarrant, en allant au bout du truc. Et ça, c'est une fierté, effectivement, qui est ici. S'il n'y a pas beaucoup de points de fierté en Afrique, ben ça, c'en est un. Ça, c'en est un, et effectivement, c'est un point de ralliement qui fait que beaucoup de gens issus de d'autres communautés se reconnaissent derrière ça.
C'est intéressant.
Le fameux esprit des aides, comme on dit en France, c'est ça, en fait. C'est ça.
C'est quoi l'esprit des aides?
C'est l'esprit révolutionnaire, quoi. C'est l'esprit.
Quoi, des aides?
Des aides, c'est le code. C'est le code d'Algérie, en fait, dans la nomenclature.
Ah oui, d'accord.
Donc, des aides, c'est Jazaïre.
Ah oui, d'accord.
Et oui, il y a cet esprit des aides. Comme on dit, l'esprit des aides, il n'est pas forcément lié à l'Algérie en elle-même, il est lié à tout ce qui était autour. Et ce qui était autour, c'est ça, c'est le combat d'un peuple pour son émancipation, comme on l'a vécu avec Haïti à une période un peu plus lointaine. C'est un peu la même chose, c'est exactement la même chose. Et vous, moi, c'est pas à vous que je vais le raconter, mais le scénario algérien, il est hyper célèbre en Amérique du Sud. Quand vous allez en Amérique du Sud et que vous dites que vous êtes algérien, on se dit waouh, là, là, oui, révolution, tatati, tatata. On sait. Ça, c'est un point positif, mais en même temps, c'est un point qui n'est pas encore abordé par le politique français. Et quand on abordera ce sujet-là et qu'on acceptera qu'il y a eu une guerre, que la France a perdu, effectivement, mais c'est pas une honte. Voilà, on a perdu, on perd toujours contre le peuple, vous le savez. On gagne pas contre un peuple. Donc oui, la France a perdu parce qu'elle a envoyé des hélicoptères quand les autres envoyaient leur cœur. Donc vous pouvez pas gagner, c'est pas possible. Donc évidemment, quand on acceptera tout ça les uns les autres, je pense qu'on aura fait un petit chemin déjà vers le vivre ensemble. Voilà, la grande majorité des gamins dans les quartiers, encore aujourd'hui, sont d'origine africaine. Et alors, y a un changement de flux, hein, aujourd'hui. On a l'Est qui arrive aussi. Les gens de l'Est, nous, on les voit, on est les premiers dans les banlieues à les voir arriver. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il y a une... Alors pour le coup, ça va faire plaisir aux suprémacistes, ils sont blancs, donc c'est cool. Mais les Roumains, les Ukrainiens qui vivent avec nous aujourd'hui, qui sont là...
Il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés ici?
Pas beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Roumains.
Roumains?
Beaucoup de Roumains, ouais.
Depuis que non, la Roumanie est dans l'Europe ou même
oui,
avant.
Oui, voilà, je pense que ça, c'était déjà un petit peu avant, mais là aujourd'hui c'est plus, c'est facile.
C'est facile pour eux.
Des aides de l'administratif. Donc ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
D'accord.
Et c'est cool, c'est bien pour nous aussi parce que ça nous permet de découvrir d'autres cultures.
Ouais.
Et d'ailleurs là, on a une Roumaine qui travaille ici.
D'accord. Et, qui fait quoi?
Qui travaille dans l'association. On a une association. On travaille avec une association de dont je vous ai pas parlé parce que ça c'est un travail hyper important aussi. Ça s'appelle les femmes relais. Et en fait, ce sont des mamans du quartier qui sont réunies en association et qui font de la cuisine. Et on a un restaurant associatif qui est ouvert là tous les midis et qui vous fait voyager à travers les origines.
C'est que le midi, le restaurant.
Ouais, c'est que le midi, mais ils font traiteur aussi.
D'accord.
Et ça marche super bien sur la ville. Ouais, ouais.
Okay.
Et voilà. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est beau.
On va finir sur ces mots.
Ouais.
Sauf si vous avez une petite chose à ajouter auquel vous tenez.
Non, la chose à laquelle je tiens, je pense que je vous ai assez bassiné avec pendant tout cet entretien, hein, c'est qu'il faut s'accepter, il faut se respecter. Et je pense qu'à partir du moment où on a déjà accepté que l'autre est différent, on a fait un grand pas. On a fait un grand pas vers la paix, la paix sociale. Après, je suis un utopiste, je sais que c'est pas réalisable en soi. Mais déjà, tendre vers, ça serait bien. On tend pas vers en ce moment, on tend à l'encontre, là, on s'en va. Et c'est pas ouf ce qui se passe. C'est pas ouf du tout ce qui se passe. Mais voilà, nous on est là.
Ouais, c'est ça. Et on se retrousse les manches.
Ouais, carrément, bien sûr.
Il y a du travail.
Il y a beaucoup de travail.
Bah, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites ici.
Bah, merci.
Et merci pour l'interview.
Merci.
Fais-moi une place dans ton village où mon profil n'inspire que la rage. Laisse-moi m'asseoir, c'est ma place, je fais partie du paysage. C'est mon village, c'est mon visage, c'est une chance, ma destinée. Est-ce que c'est un rêve, un doux mirage, la quête du Graal, l'inespéré. C'est comme une envie de métissage, le cadeau que je laisserai. Même si certains crèvent, c'est mon paysage. Non, rien, plus rien ne pourra l'empêcher. Je veux plus faire d'efforts, je suis trop fatigué. Je ne veux plus cacher. Je veux plus faire d'efforts, je suis trop fatigué. Je ne veux plus cacher. Je veux plus me justifier. Fais-moi une place dans ton village où mon profil n'inspire que la rage. Moi m'asseoir, j'aime cette place, je veux faire partie du paysage. Fais-moi une place dans ton village où mon profil me pousse à la marge. Laisse-moi m'asseoir, c'est ma place, je fais partie du paysage. Plus de passeport, d'identité, ma différence, c'est ça ma chance. C'est un cadeau qu'on m'a donné, un étendard que je porte avec fierté. Puisque nous sommes tous étrangers, j'ai la clé des portes, pourquoi je battrais le pavé. Promis, juré, j'y arriverai. Et c'est ça mon fils que je te lèguerai. Je veux plus faire d'efforts, je suis trop fatigué. Je ne veux plus.